SBS Radio.
Les grands titres de ce dimanche 21 juillet, la Grande-Bretagne dénonce la saisie par l'Iran d'un de ses pétroliers. Des rassemblements en Australie pour marquer le 6e anniversaire de la détention offshore des demandeurs d'asile à Manus Island et à Nauru. Il y a 50 ans, Neil Armstrong devenait le premier homme à marcher sur la Lune. La saisie par l'Iran d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz, le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt a exprimé sa déception à Téhéran.
This is completely unacceptable. Freedom of navigation must be maintained. We will do everything we can to do that, but there will be serious consequences if we're not able to resolve it quickly.
Le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt, depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, l'Iran essaye d'internationaliser la crise alors que les effets des sanctions américaines contre le pays commencent à impacter durement sur l'économie. Analyse de Thierry Coville, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il est sur Radio France Internationale.
Les Européens le savent, que toute la crise vient de la sortie des Américains de l'accord sur le nucléaire. Quelque part, ils comprennent les réactions de l'Iran, ils les avaient anticipées. On sait très bien que le pétrolier iranien qui a été arraisonné par les forces britanniques, on soupçonne fortement que c'est quand même les Américains qui ont conseillé les Britanniques de faire ça. Donc, on ne pouvait que s'attendre à une réaction iranienne, parce que pour les Iraniens, ça a été pris comme une application par les Britanniques des sanctions américaines qui visent à limiter les exportations pétrolières de l'Iran. Les Européens voient très bien d'où cette crise provient, et elle provient de l'attitude, à mon avis, irresponsable des États-Unis qui sont sortis de l'accord. Mais par contre, ils ne veulent pas que ça dégénère. Ils sont dans une situation où les Britanniques sont obligés de répondre, effectivement, au moins par les paroles, à l'action, aux actions iraniennes. Mais d'un autre côté, ils ont bien compris que, hors des négociations et hors d'une réduction des sanctions américaines, il n'y a pas de sortie de crise possible.
Thierry Coville, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Hong Kong se prépare pour une nouvelle grande marche d'opposition au gouvernement prévue ce dimanche. Mais hier, les partisans du gouvernement se sont réunis et ont défilé autour du Parlement pour exprimer leur soutien à la police et au gouvernement. Reportage Florence de Changi pour RFI.
La police de Hong Kong a saisi lors d'un raid vendredi soir ce qui semble être la plus grande cache d'explosifs jamais découverte dans la ville. Les policiers ont mis la main sur 10 cocktails Molotov, des lance-pierres et des barres en métal. Les policiers ont également saisi dans ce laboratoire clandestin un couteau et des tracts contre le projet de loi sur l'extradition, mais aussi et surtout 2 kilos de TATP. Alec McWhirter, des mineurs.
Le TATP est un explosif extrêmement instable et puissant qui peut causer des dégâts très importants. En raison de son instabilité, il peut exploser à tout moment, au contact de la chaleur, d'un frottement ou d'un impact, ce qui complique notre travail pour nettoyer la zone.
La police a confirmé avoir arrêté un homme de 27 ans soupçonné d'appartenir à un groupuscule pro-indépendance, le Front National de Hong Kong. Le commandant de police, Tse Chun Chung.
Sur la base des renseignements, nous sommes intervenus à Chen Wan. Un homme a été arrêté et nous avons saisi des engins explosifs. À ce stade, nous n'avons aucune preuve que cette découverte a un lien quelconque avec les événements.
Une chose est sûre, dimanche, les Hongkongais vont de nouveau battre le pavé pour demander liberté et démocratie.
Florence de Changi. Aux Nouvelles Australiennes, la famille du touriste australien Lucas Fowler, qui a été abattu avec sa petite amie dans une région éloignée au Canada, est arrivée hier dans la province de la Colombie-Britannique. Les corps de Lucas Fowler et de l'américaine China Dees ont été retrouvés plus tôt cette semaine. Lucas Fowler est le fils de l'inspecteur en chef de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Stephen Fowler. La famille sera informée aujourd'hui de l'enquête menée par le Canada sur les décès. Des rassemblements ont eu lieu autour de l'Australie hier samedi pour marquer le 6e anniversaire de la détention offshore. Les manifestants ont appelé le gouvernement à mettre fin à la détention des demandeurs d'asile sur les îles Manus et Nauru et les faire venir en Australie. Le porte-parole du Refugee Action Collective, Chris Breen, a déclaré que le moment était venu de changer la politique.
This is the sixth anniversary since ex-Labor Prime Minister Kevin Rudd told asylum seekers on Manus and Nauru that they would never come to Australia. And for six long years, the coalition government has kept people in barbaric conditions, indefinite imprisonment. There have been 12 deaths offshore. And we're here to say that it's 6 years too long that the refugees and asylum seekers on Manus and Nauru, there's only 800 of them left there now, should be brought to Australia.
Voilà le porte-parole de Refugee Action Collective. Le chef des Verts, Richard Di Natale, a défendu son collègue Nick McKim pour avoir tenté de se rendre au centre de détention de Manus Island. Le sénateur McKim n'a finalement pas réussi à accéder aux installations et a été expulsé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée vendredi dernier. Le sénateur Di Natale sur l'ABC a déclaré que Nick McKim tentait de demander des comptes au gouvernement australien sur des personnes détenues indéfiniment au cours des six dernières années sur Manus Island.
This is a very dark chapter in this nation's history. It only endures because the Australian government prevents people like Nick, prevents journalists and human rights monitors from accessing these facilities and telling the true stories of innocent people who've been locked up for 6 years.
Le chef des Verts, Richard Di Natale, 40 Australiens qui avaient précédemment rejoint des groupes extrémistes en Syrie et en Irak seraient de retour dans le pays. Le Sunday Telegraph rapporte qu'ils font partie des 230 Australiens qui se sont rendus en zone de guerre depuis 2012. Le gouvernement de la coalition libérale se prépare à faire pression pour que de nouvelles lois antiterroristes soient adoptées par le Parlement cette semaine afin d'interdire aux personnes à haut risque de rentrer en Australie pour une période de 2 ans. Le Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, arrive à Canberra ce dimanche. Il sera à la base aérienne de Fairburn cet après-midi et sera accueilli au Parlement demain. Il s'entretiendra ensuite avec le Premier ministre Scott Morrison. Un nombre record d'étudiants dans le Victoria étudie les langues autochtones. Selon les chiffres du département de l'éducation de Victoria, 1867 élèves des écoles publiques étaient inscrits pour apprendre des langues autochtones l'année dernière contre 23 étudiants en 2011. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Londres pour manifester contre le Brexit et le leader du parti conservateur Boris Johnson. Boris Johnson est considéré comme le favori devant le secrétaire aux affaires étrangères Jeremy Hunt. Le nouveau Premier ministre remplacera Theresa May la semaine prochaine. Naomi Smith, le PDG de Best for Britain, une campagne civile visant à stopper le Brexit, a assisté à la manifestation.
If Boris is Prime Minister, as he looks set to be, he has promised that he will take us out of the European Union on the hardest possible terms of Brexit. That is absolutely not what this country voted for back in 2016. It's not what the Brexiteers themselves said they were going to do if we had a Leave vote in 2016.
La PDG de Best for Britain, Naomi Smith. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, est en voyage officiel dans 4 pays d'Amérique latine. Hier, il était en Équateur, où les relations sont au beau fixe depuis que le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été expulsé de l'ambassade équatorienne à Londres. Reportage Eric Sanson, RFI.
Outre l'expulsion récente du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, de l'ambassade équatorienne à Londres, qui a ravi Washington, Quito a clairement changé de politique extérieure ces 2 dernières années. L'Équateur souhaite aujourd'hui intégrer l'Alliance du Pacifique et s'est retiré de l'UNASUR, l'Union des Nations du Sud, voulue par les régimes de gauche de la région. Ayant choisi une politique pragmatique, qualifiée de trahison par l'ancien président Rafael Correa, le régime équatorien rappelle que les États-Unis restent le premier partenaire commercial du pays et hébergent une diaspora de plus de 600 000 Équatoriens, probablement plus en comptant les sans-papiers. Les deux pays ont repris leur coopération sécuritaire, notamment dans le cadre de la lutte anti-drogue. Expulsés par Correa, les avions radars américains sont de retour en Équateur. Quito a reçu l'aide de Washington pour recevoir en mars dernier une ligne de crédit de plus de 8,5 milliards d'euros de plusieurs organismes internationaux. Sur le plan bilatéral, l'Équateur souhaite rester dans le système général de préférence douanière et obtenir des fonds pour faire face à la crise migratoire vénézuélienne et pour financer plusieurs programmes sociaux.
Eric Sanson pour RFI. Libération en Libye de Baghdadi al-Mamoudi, l'ancien Premier ministre sous le règne du colonel Gaddafi, et il ne cesse d'accuser l'ancien président français Nicolas Sarkozy d'avoir touché 50 millions d'euros du colonel Gaddafi. Reportage Tancred Chambreau pour RFI.
Selon le communiqué du ministère de la Justice, la décision a été prise pour des raisons de santé. Le dernier chef du gouvernement de Muammar Kadhafi avait fui à la chute du régime en Tunisie, d'où il a été extradé 9 mois plus tard. Il avait été condamné à mort en 2015 avec 8 autres dignitaires de l'ancien régime pour son rôle présumé dans la répression meurtrière de la révolte en 2011. Lors de sa détention en Tunisie, Baghdadi Ali al-Mahmoudi avait affirmé, selon des propos rapportés par ses avocats, que la Libye avait bien financé la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Des accusations formulées également par Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dictateur, mais fermement démenties par l'ancien président français. À 73 ans, l'homme politique libyen est donc sorti de détention. Il devrait, selon le ministère de la Justice, recevoir des soins dans des centres médicaux en dehors de structures pénitentiaires.
Tancred Champreau pour RFI. Le premier pas sur la Lune, c'était le 20 juillet 1969. La NASA compte poser à nouveau des astronautes sur la Lune en 2024. Et la Russie et la Chine sont aussi dans la course, comme l'explique Simon Rosé pour RFI.
Si tout le monde suit son plan comme prévu, en 2030, il y aura des Américains, des Russes et des Chinois sur la Lune. Si la NASA conserve une longueur d'avance en visant 2024, les programmes de ses homologues n'en sont pas moins ambitieux. La CNSA, l'agence chinoise, souhaite ainsi construire une base scientifique sur le pôle sud de la Lune. On en est encore loin puisque le programme lunaire de Pékin consiste aujourd'hui à l'envoi de sondes robotisées et son programme habité à une petite station en orbite autour de la Terre. Ceci dit, le développement d'un lanceur super lourd est en cours et la Chine a pour habitude de tenir ses promesses dans le domaine spatial. En Russie, après s'être fait damer le pion en 1969, c'est 2030 la date désormais retenue. L'objectif et la feuille de route sont les mêmes que la Chine, une base scientifique et une première phase robotisée avant l'envoi de cosmonautes. Mais là aussi, il reste beaucoup de travail à réaliser. La fusée lunaire n'existe pour l'instant que sur le papier, tout comme l'atterrisseur. Enfin, même si cela semble improbable aujourd'hui, étant donné le contexte géopolitique, il n'est pas impossible que tout le monde se décide à travailler ensemble plutôt que seul. Plusieurs appels ont été lancés en ce sens et cela accélérerait grandement les choses.
Simon Rosé pour RFI. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 19 degrés. Adélaïde, quelques averses, 15 degrés. Melbourne, quelques averses, 15. Hobart, possibilité d'averses, 14 degrés. Canberra, du soleil, maximal de 15 degrés. Sydney, du soleil et 22 degrés, Brisbane du soleil 23 degrés, Cairns il fera beau, 26 degrés, Darwin 31 et à Alice Springs maximal de 22 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 21 juillet. La Grande-Bretagne dénonce la saisie par l'Iran d'un de ses pétroliers. Des rassemblements en Australie pour marquer le 6e anniversaire de la détention offshore des demandeurs d'asile à Manus Island et à Nauru. Et puis, il y a 50 ans, Neil Armstrong devenait le premier homme à marcher sur la Lune. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.